Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentar. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Florent Maubert, fondateur de la galerie Maubert. Bonjour Florent, merci d'avoir accepté mon invitation. Actuellement, vous êtes directeur de la galerie Maubert. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Oui, alors j'ai un parcours assez singulier parce que j'ai fait des études d'ingénierie. Donc c'est assez atypique pour un galeriste. De ma famille en fait, j'ai été assez tôt introduit dans l'art contemporain et dans l'art en général puisque ma maman est peintre. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu aussi un penchant pour l'art. J'ai travaillé un petit peu dans la finance après donc du coup mes études d'ingénierie. En parallèle aussi pris des cours à l'école du Louvre. Et je me suis lancé dans la galerie après avoir écrit 10 ans en fait sur la danse et progressivement aussi sur des corrélations entre la danse et l'art contemporain, notamment pour des magazines comme Paris Capital, Danser, le groupe Télérama. Et ensuite j'ai ouvert la galerie en 2010, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, qui pour moi était un compromis entre justement la volonté de continuer à travailler sur des écritures, parce que j'ai beaucoup travaillé autour d'expositions collectives au départ, mes envies et aussi mon appétence pour la collection, mes connaissances justement d'institutions, de collectionneurs, mais aussi mes relations avec certains artistes qui se sont construits aussi progressivement grâce à ces expositions collectives.
Pourquoi avoir choisi le métier de galeriste ?
Alors pourquoi avoir choisi le métier de galeriste ? C'est une bonne question. Pour moi, c'était avant tout l'idée de travailler dans l'art contemporain. J'ai toujours aussi eu la volonté d'essayer d'exceller dans ce que je faisais. Alors je ne sentais pas la volonté d'être artiste. Je voulais pas spécialement travailler dans les institutions. Je voulais mettre en rapport les personnes, justement les artistes, les institutions. Je me sentais bon là-dedans. Donc c'est vraiment la seule raison qui m'a amené à faire ça. Et pas une volonté précise d'un métier précis parce que je ne connaissais pas spécialement ce métier.
Quelle est la ligne artistique de votre galerie et comment découvrez-vous ces artistes ?
Alors la ligne artistique, c'est un mot assez complexe parce que pour moi, je ne l'ai pas vue comme ça au départ. Je pense qu'elle s'est imposée au fur et à mesure que les artistes se sont présentés à moi ou que j'ai découvert certains artistes. Il y a des artistes vraiment tout premiers où je m'intéressais aussi vraiment à la jeune création, par exemple comme Sarah Favrio, je la revois en train de m'apporter ses dessins à la galerie qu'elle avait jamais montré parce qu'elle était vraiment elle montrait surtout de la sculpture à ce moment-là, donc elle était elle sortait des Beaux-Arts de Paris quasiment. Mais aussi mes recherches aussi qui m'ont amené à découvrir certains artistes en regardant ce que collectionnaient les musées, ce que montraient les centres d'art, les amis des artistes aussi. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un bon artiste ne pouvait être ami qu'avec un autre bon artiste pour partager justement des choses autour de leur démarche et des choses en profondeur. Donc j'ai commencé à chercher ces artistes de cette façon-là et effectivement agrandi progressivement l'écurie de la galerie. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement en déduire une certaine ligne, alors qui est peut-être autour de cette idée de travailler autour de la trace, qu'elle soit dans le temps ou dans l'espace, des choses plus autour du temps, du mouvement. Parce qu'il y a vraiment les artistes qui mêlent aussi des pratiques performatives m'intéressent beaucoup. Alors je pense que c'est aussi mon rapport à la danse qui veut ça. Des artistes aussi qui travaillent sur les idées de recherche aussi fondamentales entre l'usage et aussi nos usages. Je pense par exemple à Nathalie Lemanto qui met en avant ce travail-là. Voilà, la sculpture d'usage en général, c'est quelque chose qui est assez présent dans la galerie, avec Gabriel Conil de Bessac par exemple, Nathalie Lemanto et bien d'autres, on va dire, ponctuellement dans leurs travaux. Et bien sûr, donc les pratiques performatives, puisque je m'intéresse toujours à la danse. À côté de la galerie, j'ai la volonté de proposer, de mettre en relation des danseurs et des plasticiens. Alors ça se concrétise sous différents angles, notamment des expositions qui mêlent des chorégraphes et des plasticiens. Alors par exemple, des chorégraphes qui vont faire des œuvres plastiques, comme William Forsythe par exemple, avec ses Choreographic Objects. Ou bien des artistes qui s'intéressent au corps, à la façon de travailler avec des danseurs, par exemple Agnès Jouffré, qui est une artiste de la galerie, mais qui est aussi assez importante dans cette idée-là. Et en ce moment, j'ai ouvert une exposition donc, au FRAC Franche-Comté, dont je suis le co-commissaire avec Sylvie Zavatta, et c'est la deuxième exposition autour de ces thèmes qui mélangent danseurs et plasticiens, qui s'appelle « Danser sur un volcan », qui durera jusqu'à fin septembre 2021 et qui est autour des puissances qui agissent sur le corps, des puissances externes. Donc on pense à la gravité, par exemple, la façon dont le poids va agir sur le corps, et pour un danseur, mais aussi pour des plasticiens, mais aussi l'autre, le contact de l'autre, le regard de l'autre, par exemple en lien avec des courants historiques comme la danse contact de Steve Paxton.
Justement, je crois que vous êtes aussi très proche du monde de la danse.
Oui, donc la danse a toujours été quelque chose de très important pour moi. Alors aujourd'hui, même si je pratique très peu, c'est vrai que j'ai une pratique assez importante, on va dire jusqu'à mes 20 ans, et puis progressivement aussi, les choses ont mûri. Donc j'ai mon EAT, par exemple, en danse classique, jazz et contemporain. Donc c'est aussi des disciplines qui toutes m'intéressent pour des raisons différentes. La rigueur du classique, l'ouverture aussi du jazz, mais aussi voilà, la rigueur un peu plus, peut-être plus profonde du contemporain. Toutes ces disciplines m'intéressent et ont nourri aussi, je pense, mon parcours et deux, mes intérêts aujourd'hui pour regarder vraiment dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la danse, pourquoi des artistes se sont rencontrés, comment ont pu évoluer leur démarche. Je pense par exemple à la Judson dans les années 60 aux États-Unis, voilà, des artistes, des chorégraphes qui déjeunaient avec des plasticiens et qui avaient des idées de créer, de co-créer des choses. Et voilà, cet esprit-là est toujours latent chez certains artistes. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir. Alors j'ai plein d'idées parce que l'histoire de l'art nous a fourni plein d'idées. J'ai écrit notamment des articles autour de la façon dont Picasso, par exemple, était si bon peintre et sculpteur, certainement à cause de la danse. Alors, l'histoire de la danse, hein, il était marié à une danseuse, des ballets russes, mais aussi ses rencontres avec les danseurs qui ont nourri son dessin quand il voyait à Monte Carlo les danseurs à la barre, par exemple. C'est quelque chose, on voit son dessin complètement changer à ce moment-là. Et ensuite, il a été photographié par John Milley dans les années, fin des années 30, 40, et qui montre à quel point, justement, en dessinant dans l'espace, Picasso dessinant des sphères, et c'est assez proche de théories de la danse comme les kinésphères par exemple de Laban. Voilà, donc on voit que finalement Picasso était danseur, et donc l'idée ce serait de nourrir une expo d'artistes contemporains autour de l'exploration de l'espace par la main. Voilà, on revoit des performances de Neumann par exemple où il décrit des carrés au sol et où sa démarche justement est contrainte par des lignes dans l'espace. Voilà, ou à plein d'autres artistes contemporains et même des très jeunes artistes.
Dans le cadre de votre fonction de galeriste, vous avez été amené, avec les artistes que vous représentez, à intervenir dans des projets de la charte Un immeuble, une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets que vous avez réalisés ?
Oui, alors depuis en fait la création de la charte Un immeuble, une œuvre, je me suis penché sur ces projets parce que déjà, il permettait à certains artistes d'avoir des projets d'ampleur, notamment des projets en extérieur, qui sont toujours des projets très compliqués à cause des problématiques de rester sur de pérennité, de rester sur le long terme, mais aussi de sécurité. Et d'un point de vue plus optimiste, on va dire plus intéressant, de travailler de la circulation du public, mais aussi leur usage. Et notamment, je pense à un projet, ou deux projets même que j'ai fait avec Nathalie Manteau, pour Marignan, de Porogique, qui sont vraiment autour de l'usage des gens. Ce sont des projets où on peut s'asseoir, poser un verre, créer une agora pour que les gens se rencontrent, pour se donner un rendez-vous quelque part, et voilà, pour utiliser la sculpture, qu'elle ne soit pas simplement posée sur un socle de manière classique. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup moins dans la façon dont je travaille justement sur mes projets avec les artistes et avec la charte Un immeuble, une œuvre. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont des projets qui sont souvent réalisé vraiment dès le départ. Je pense à des projets avec Emmerich, par exemple, où les projets sont vus quasiment 3 ans à l'avance, et qui justement permettent de rentrer dans la phase de création dès le départ, et avec les architectes et avec les promoteurs, et justement de pouvoir changer ou certaines choses architecturales, un jardin, changer les plans, les faire passer de tel ou tel endroit pour que la sculpture justement puisse être à l'endroit, on va dire, optimal. Et j'ai souvent une très bonne écoute de la part des promoteurs et des architectes, et ça permet vraiment de développer un projet depuis le départ et de manière, on va dire, beaucoup plus précise dans la démarche de l'artiste aussi, parce que j'ai pas toujours une réponse positive de la part des artistes. Certains ne veulent pas justement travailler sur commande ou travailler avec les contraintes d'architecte. Donc justement, je sélectionne les artistes qui ont envie de le faire, parce que pour moi, tout passe aussi par l'envie de travailler de cette façon-là. Et une fois qu'il y a eu cette envie et qu'elle est partagée de l'autre côté, parce que signer la charte Un immeuble, une œuvre pour un promoteur, c'est aussi affirmer cette envie d'avoir envie de travailler avec la création contemporaine, et donc les choses qui se font et non pas les choses qui sont statiques. Voilà, donc c'est pour moi vraiment très important cette envie de collaborer. Voilà. Et la collaboration n'est pas toujours voulue des deux côtés, donc il faut avoir envie de le faire. Et pour moi, c'est vraiment le pilier de cette charte.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets de Nathalie Elemento?
On peut parler de chacun des projets. Alors Nathalie a effectivement fait plusieurs projets pour sa charte. Elle a travaillé depuis très longtemps avec des architectes, Dominique Perrault par exemple, sur des choses de très grande ampleur. Donc il y a eu cette pièce de Marignan qui était vraiment autour de l'usage, mais aussi une pièce pour Ogic qui s'appelle le bain d'oiseau, qui est assez intéressante parce que justement en fonction des contraintes qui ont eu lieu des deux côtés, la pièce a beaucoup évolué. Elle a permis à Nathalie de travailler des pièces en coriandre, en extérieur, donc qui est une matière assez belle et assez noble et assez contemporaine. C'était la première fois qu'elle le faisait pour l'extérieur. Elle a beaucoup utilisé pour l'intérieur, notamment ses pièces en coriandre autour du braille, parce qu'elle voulait développer le toucher, et le coriandre, c'est vrai, a une texture qui est assez intéressante au toucher. Et ce bain d'oiseau, effectivement, au début, c'était une fontaine, mais en fonction des contraintes, parce que l'eau ne devait pas être stagnante, parce qu'il y a des nouvelles normes contre, justement, pour les moustiques, par exemple, où l'eau stagnante favorisait le développement des moustiques. Donc, la pièce est successivement devenue fontaine, bain d'oiseau, mais voilà, et évoque cette idée de l'eau, justement, par la stagnation. Et Nathalie a beaucoup travaillé autour du pli, notamment dans des sculptures en métal, en papier. Voilà, une série fait partie de la collection du FRAC Provençal Côte d'Azur, achetée il y a 2-3 ans. Et donc cette idée du pli, c'était vraiment l'idée de mettre en relation une posture ou une position mentale. Être plié, ça, on peut le jouer sur différentes notions, on va dire, linguistiques. C'est être à plat pour quand une forme est à plat, mais aussi être en forme quand c'est en forme. C'est aussi des états de veille et d'état d'éveil. Donc Nathalie développe cette idée du pli dans sa sculpture, justement en relation avec nos postures. Ce bain, on peut le voir comme des sortes de fleurs, mais aussi on peut le voir comme des sortes d'assises, mais aussi on peut le voir comme l'idée d'une forme qui s'est figée dans la blancheur de cette matière, du coriandre, et qui, par ces petits pointillés, évoque le pli ou justement la possibilité de se mettre en mouvement, donc de croître aussi pour la plante, de se mettre en mouvement pour accueillir ces oiseaux, pour développer nos propres usages.
En tant que galeriste, que pensez-vous de la charte Un immeuble, une œuvre?
Alors, pour moi, la charte Un immeuble, une œuvre, ça a été quelque chose de très positif pour la création, puisqu'elle a développé vraiment de nombreux projets. Et je pense que les promoteurs ne le voient pas spécialement comme une obligation, justement, de mettre dans chacune de leurs réalisations l'œuvre d'un artiste contemporain, mais qui le voient vraiment comme la possibilité de travailler avec un artiste, de développer sa démarche, d'intégrer une œuvre dont ils seront fiers à la fin, dans la finalité de l'architecture et du développement promotionnel, de dire justement, vous êtes dans l'immeuble Elementos, vous êtes dans l'immeuble Buren, puisque je sais voilà, qu'il y a eu des projets Buren. Voilà, je pense que c'est aussi une fierté de se dire qu'on développe aussi en France un projet avec des privés qui aussi est à mettre en parallèle des 1% ou des projets développés aussi par l'État. Qui aussi permet aux artistes de s'attaquer, on va dire, à la sphère publique, à se mettre en danger, parce que ce sont des créations souvent très différentes de ce qu'ils font pour des musées ou pour des centres d'art, mais aussi rester honnête, ne pas justement proposer des choses faciles, commerciales ou qui seraient différentes de leur démarche habituelle. Et je pense qu'il faut justement dans ces projets faire attention à ne pas tomber justement dans une facilité de la décoration. Et encore, je n'ai rien contre la décoration. C'est même une partie assez importante du développement de certains artistes contemporains. Je pense à Armel Hedler qui travaille là-dessus, ou même actuellement à la galerie, je montre Sylvie Fanchon qui justement intègre ces concepts-là pour justement développer son travail. Mais voilà, j'ai vu les réalisations dans certains 1% publics ou dans certaines relations d'un immeuble une œuvre qui pour moi sont peut-être plus orientées autour de la décoration et qui pour moi n'était pas dans l'esprit justement d'un immeuble une œuvre au départ, qui était vraiment développer la création contemporaine. Et justement de demander aux artistes contemporains d'investir ces lieux en restant vraiment proches de leurs travaux, de leur démarche artistique.
Effectivement, la frontière entre art et décoration est parfois mince. Qu'en pensez-vous?
Oui, enfin moi j'ai rien contre vraiment j'ai rien contre la décoration, mais c'est il faut pas voilà juste quand on dit on va aider la création contemporaine et aussi des artistes souvent émergents aussi de proposer des designers de renom à côté, je pense qu'on se on se voilà on n'est pas vraiment dans l'esprit initial de la charte en immeuble neuf. Alors que la création soit émergente, je sais pas, parce que moi je travaille avec des artistes vraiment de toute expérience, et pour moi ils ont tous besoin de cette charte. C'est très important pour eux parce que c'est vraiment la possibilité voilà de travailler, de se mettre en danger. Donc je sais pas s'il y a besoin de faire encore aussi voilà de mettre en avant un jeunisme ou voilà qui pour moi est un peu réducteur. Je pense que les artistes de toute tâche pourrait travailler pour cette charte Un immeuble, une œuvre et mettre en avant plutôt la scène française. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas se tromper de cible et je pense qu'elle veut mettre en avant l'art contemporain français et je pense que c'est une bonne idée.
Quels sont les bénéfices que les artistes peuvent retirer de leur participation à un projet de la charte?
Alors, il y a différents bénéfices, je pense, que les artistes peuvent retirer de cette participation au projet Un immeuble, une œuvre. Bah, le premier, c'est déjà de travailler. Les projets de 1% public sont souvent assez longs, les dossiers fastidieux, les jurys, une grande, on va dire, concurrence. De rajouter des nouveaux projets privés grâce à la charte Un immeuble, une œuvre, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour eux. Voilà, pour les faire travailler financièrement, je pense que c'est assez important. Et aussi, surtout, je pense que c'est une façon de développer des nouveaux projets, de s'intéresser à la réalisation in situ, de s'intéresser aussi au rapport à l'architecture, de se mettre en danger et d'avoir un nouveau regard sur leur propre démarche. Et je pense que ça a permis à de nombreux artistes justement d'aller dans des directions auxquelles ils n'auraient pas pensé initialement et qui pour vraiment, je pense, développer leur démarche et leurs travaux.
D'après vous, pourquoi est-ce si important d'incorporer l'art dans nos vies quotidiennes, dans des espaces où l'on ne l'attend pas?
Alors, l'art dans nos vies quotidiennes, je pense que c'est très important. Et puis, on le voit aujourd'hui, quand on est parfois confiné chez soi, d'avoir une œuvre en face de soi qu'on voit régulièrement et qui nous amène justement à réfléchir à la démarche de l'artiste et pourquoi un artiste a pu faire ce genre de choses. Je pense que c'est une ouverture qui est indispensable pour nous. Elle peut nous amener aussi à réfléchir, à aller creuser sur une démarche propre à l'artiste. Je pense à des inaugurations qu'on a fait justement dans des projets à un immeuble, une œuvre. Les gens de l'immeuble ont pu rencontrer les artistes, ont pu discuter avec eux. Certaines personnes qui n'étaient pas là, je sais, ont contacté les artistes par la suite pour justement essayer de comprendre pourquoi cette œuvre dans leur immeuble. Donc clairement, ça amène les gens à réfléchir, à rencontrer de manière virtuelle ou de manière physique certains artistes. Certains ont eu envie ensuite de suivre ces artistes et d'aller voir leurs expositions. Par exemple, Nicolas Daubon au Palais de Tokyo qui faisait en parallèle une grande installation pour Terreau. Voilà, donc c'est dans tous les cas, c'est une façon voilà d'accroître l'envie des gens de se sortir justement de leur quotidien, de les amener dans un imaginaire qui est, je pense, indispensable en ce moment.
Qu'est-ce que l'art pour vous? Est-ce un moyen de véhiculer des messages?
Alors, l'art pour moi, oui, je pense que c'est vraiment un moyen de véhiculer des messages. Alors, les messages peuvent être vraiment de tout ordre. Certains artistes s'intéresse à l'histoire, s'intéresse à la géopolitique, s'intéresse à la politique. Et pour eux, l'art est vraiment quelque chose d'important pour véhiculer ces messages. Alors, c'est vrai que parfois, ça ne rencontre pas dans justement l'adhésion de certains promoteurs ou de certains architectes, justement parce que l'artiste est trop engagé pour ce genre de projet. Et justement, on ne veut pas imposer un choix politique à des habitants d'un immeuble qui, justement, par définition, vont être de tous bords politiques ou d'avoir des idées qui peuvent être à l'encontre de ce message-là. Mais je ne pense que ça ne doit pas empêcher l'artiste, justement, de véhiculer des messages qui sont peut-être de l'ordre aussi philosophique, littéraire. Voilà, même historique, il y a des choses qui peuvent justement être intégrées dans la charte un immeuble, une œuvre assez facilement, et pour moi c'est indispensable parce qu'une œuvre qui ne véhicule pas de message peut-être ne nous amène pas à réfléchir, et pour moi c'est indispensable de croiser des œuvres dans son quotidien qui nous amènent à réfléchir. Après, elle nous amène à vivre. Le design, c'est vraiment aussi comment adapter le corps. Une chaise, elle a une forme d'un corps, hein. Le vocabulaire utilisé pour décrire une chaise, c'est le dos de la chaise, les accoudoirs, enfin c'est le vocabulaire du corps. Donc il y a vraiment une proximité entre le design et notre façon de vivre. Donc la décoration, le design aussi sont des choses importantes pour vivre. La couleur d'un mur, c'est important. Donc vraiment, je pense que la décoration est très importante. Par exemple, Nicolas Flock, il développe un travail sur la couleur de l'eau, le monochrome, c'est des choses voilà, qui sont pour moi indispensables. Donc je ne veux vraiment pas contre la décoration. Mais pour moi, cette charte, elle doit mettre en avant l'art contemporain et éviter de garder des budgets qui doivent être alloués justement à des démarches contemporaines pour pallier le fait que on n'a pas d'assises dans un hall ou des lampes dans un hall. Voilà, faut pas se tromper. Quand on a décidé d'aider voilà l'art contemporain, on aide peut-être ces artistes contemporains et on doit allouer des budgets en plus pour la décoration et pour le design.
Est-ce que vous avez des projets à venir? Pouvez-vous nous en dévoiler quelques-uns?
Alors, des projets avec un immeuble, une œuvre. Un projet qui sera installé d'ici la fin de l'année pour Emmerich avec Sarah Favrio. Donc certains connaissent Sarah depuis son exposition au Palais de Tokyo où elle avait justement investi la galerie Wisson avec 2000 tasseaux de bois sculptés comme un dessin dans l'espace qui représentait à la fois des sculptures sur socle mais aussi des sortes de cabanes sur pilotis avec des ouvertures où on pouvait voir à l'intérieur des cabanes des œuvres d'autres artistes avec différents commissariats qui s'étaient succédés. Ces cabanes, en fait, ont trouvé une seconde vie par la suite, notamment une a été acquise par le MacVal et installée de manière pérenne sur le plan d'eau. Donc, pour ceux qui ont la chance d'aller au MacVal, vous pourrez voir en allant dans le jardin cette sculpture qui se reflète dans l'eau et c'est très très beau. Et Emmerich aussi a décidé d'en adapter une aussi pour un de ses jardins. Donc je dis adapté parce que c'est toujours des créations très différentes. Autour de la cabane, il y a une sorte de chemin en bois, des sortes de passerelles qui zigzaguent à l'intérieur du jardin. Donc c'est en cours, hein. Donc c'est vraiment un projet. Il n'y a ni photo ni dessin complètement figé. Donc c'est vraiment un travail actuellement avec les paysagistes, les promoteurs, les architectes pour définir justement ce tracé et cette spécificité de cette sculpture. C'était assez important aussi. Emmerich a été très à l'écoute pour proposer ce projet à Sarah Favrio parce que ces cabanes ne sont pas spécialement d'usage. Elles ne doivent pas être investies au Palais de Tokyo. D'ailleurs, elles étaient mises à hauteur. Elles étaient à une taille un peu d'adolescent, on va dire, ni pour les enfants, pas pour développer l'imaginaire de la cabane, mais aussi ni à taille d'adulte pour que les gens ne puissent pas s'imaginer monter dessus, marcher, rentrer à l'intérieur. Ce sont des sculptures, ce sont des œuvres d'art et c'est important pour l'artiste qu'il n'y ait pas cette notion d'usage et de créer une cabane justement pour le jeu. Donc ce jardin d'Emmerich n'est pas un jardin accessible à toute la copropriété, c'est un jardin, on va dire, où les gens peuvent regarder depuis les nombreuses terrasses qui sont présentes. Certains ont accès au jardin, comme dans n'importe quel musée, seront conscients du fait que ce n'est pas une... que c'est une œuvre d'art et qu'elle ne doit pas voilà, être... mise en danger justement par l'usage.
Merci Florent.
Merci à toi. C'était très agréable cet échange.
Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.